Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, iTunes, PodCloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.com.
Tous les jours, comme moi, vous entendez parler de catastrophes économiques, d'inflation, de chômage, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est déréglé dans le monde? Certains disent que c'est un cafouillage passager de l'économie. D'autres qu'il s'agit d'une catastrophe durable. D'autres, enfin, que c'est le début d'une véritable mutation, qu'un monde nouveau commence. Mais tout ça, c'est abstrait. Puis moi, je suis comme vous, j'aimerais bien y voir clair. Comme vous, je me sens embarqué malgré moi dans une énorme affaire qui m'échappe. Alors, comme vous l'avez sans doute fait, j'essaie de comprendre et de me faire expliquer tout ça clairement. En fin de compte, je me suis aperçu que leur fameuse crise, quand on en raconte l'histoire, toute l'histoire, cela peut devenir aussi passionnant qu'un film. Vous allez voir.
Au sommaire, aujourd'hui, une spéciale bande dessinée avec deux ouvrages parus chez Futuropolis, Le choix du chômage de Benoît Colomba au scénario et Damien Cuvillier au dessin. Benoît Colomba et Damien Cuvillier que nous retrouverons en entretien dans la deuxième partie de l'émission. Le combat du siècle, écrit par Loulou Dedola et illustré par Luca Ferrara. Doomsday Clock du scénariste Geoff Jones et des artistes Gary Frank et Brad Anderson, suite des Watchmen, paru chez Urban Comics. Et Niala, une BD coquine, parue chez Glénat, de Jean-Christophe Devenet à l'écriture et Christian Rossi au dessin. Pour causer 9e art, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, il est masqué mais toujours l'air aussi hirsute, Thomas Roland, bien sûr, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas.
Salut Jérôme, salut Damien et bien évidemment bonjour à toutes.
L'équipe de Culture Prohibée remercie Élise Brun, Manon Dumas-Maurès et Anne-Gaëlle Fontaine pour leur aide sur cette émission. Nous débutons cette émission par un ouvrage un peu coquin, voilà, qui n'est pas à mettre devant tous les yeux, même si il est assez anodin. On a vu plus corsé en matière d'érotisme en bande dessinée. C'est un ouvrage qui s'appelle Niala. Niala, qui est un ouvrage donc qui est signé Jean-Christophe Devenet au scénario, Christian Rossi au dessin, et qui est paru chez Glénat. Et c'est un ouvrage qui a, comment dire, déclenché les foudres d'internautes qui ne l'avaient pas encore lu, puisqu'il n'était pas paru, et qui a déclenché une polémique qui s'est vite arrêtée, d'ailleurs une polémique stérile, mais enfin qui a quand même entraîné des milliers de signatures, une pétition, voilà. Ça raconte quoi, Niala? Pourquoi tant de haine? Alors déjà parce qu'il y avait une jolie couverture, hein, un joli dessin qui montrait une femme noire nue de dos avec simplement un petit pagne dans la jungle. Voilà. Alors, et le pitch hein, qui était mis en ligne sur le site de Glénat était, comment dire, soi-disant, ben une monstration de. Enfin, une démonstration plutôt, j'ai envie de dire, plutôt qu'une monstration, mais une démonstration d'un regard néocolonial, voilà, avec. On allait voir ce qu'on allait voir, ça allait être une BD quand même raciste qui allait raviver les bons vieux clichés des années 50 et de la France-Afrique. Voilà. Et et une BD, c'est là où je voulais en venir, qui est aussi dans la monstration, puisqu'on allait montrer des corps nus d'Africains, de la copulation, tout ça. Enfin, tout ça avait entraîné tout un délire sur Internet, des échanges soutenus sur le net. Et puis, en fin de compte, bon, voilà, cette BD, on a fini par la lire. Évidemment, la polémique est retombée très vite, puisqu'effectivement, bah, y a pas trop de matière à polémiquer en fait dans la bande dessinée, voilà. Et qu'est-ce qu'on a lu ? Alors, on a lu une BD qui est clairement une BD érotique avec Niala qui représente l'esprit de la jungle et qui en fait, Niala, c'est une femme libre, libérée, y compris au niveau et surtout d'ailleurs au niveau de sa sexualité. Alors, le livre est illustré dans un style à mi-chemin entre les comics de Mike Mignola et la ligne claire de la BD franco-belge. C'est très beau, c'est soigné. Il y a des belles scènes, par exemple, en mouvement. Moi, j'aime bien comment sont représentés les déplacements de Niala dans la jungle, s'attardant sur des parties du corps, des éléments, du détail. Le trait va osciller entre une certaine forme de réalisme, une certaine forme, hein, je dis bien, et puis de la caricature propre à la parodie. Quoi, voilà. Et Niala, c'est loin en fait d'être l'ouvrage sexiste et raciste évoqué par les réseaux sociaux avant même sa parution. Ça présente une femme sexuellement libérée, donc qui domine les hommes et casse les dogmes en fait, à l'image de la transformation par ses soins d'une chorale de nonnes en lesbiennes. Adepte de l'amour libre. Alors certes, c'est pas toujours très fin. On est plutôt dans quelque chose qui va évoquer les vieilles BD Elvie France. Voilà. On n'évite pas toujours les maladresses, par exemple, avec tous ces noirs qui vivent nus constamment. Voilà. Mais en même temps, on est dans une BD érotique. Donc voilà. Les blancs finissent tout nus aussi, d'ailleurs. Hein. Les nonnes aussi, d'ailleurs. Voilà. Et en fait, c'est un jeu avec tous les clichés. Et c'est quand même une idée assez, comment dire, très Elvie France, là, pour le coup, que cet esprit de la forêt, ce serait une femme élevée par des bonobos. Alors, il y a Rudyard Kipling, qui est gentiment moqué, hein, dès le début de la BD. Il y a un personnage qui s'appelle Kouriki, hein, c'est pas la peine que je vous en dise plus. En fin de compte... On se moque même du fameux David Livingstone, le sorcier africain aussi, qui est un mythe. On prend aussi pour son grade. On parodie aussi le tourisme sexuel. On le voit à travers un personnage. Du coup, cette BD devient une sorte de BD sur le désir, en fait. Et la femme, en fait, le désir qu'elle suscite chez l'homme blanc comme chez l'homme noir, d'ailleurs, puisque au bout du compte, c'est elle qui gagne. C'est elle qui gagne. Et en fin de compte, c'est une BD assez réjouissante. C'est pas la BD du siècle, mais c'est une BD assez réjouissante et fort sympathique. Et à la lecture, on passe un bon moment. Et la polémique à son sujet, quand même, me paraît un poil déplacé. D'ailleurs, les jugements ont été révisés depuis la parution, quand même.
La polémique portait surtout sur le fait que ce soit une femme noire sexuellement libérée. Et alors là, on était soi-disant dans le cliché de la sexualisation, l'animalisation de la femme noire, etc. Alors que c'est pas du tout ça. Hein. La bande dessinée ne montre pas du tout ça. Montre plutôt une femme indépendante, émancipée, forte, et qui s'émancipe dans sa sexualité et qui prend le pas aussi sur les autres. Autant sur les hommes que sur les femmes. Il y a de l'homosexualité, l'homosexualité féminine, mais aussi de l'homosexualité masculine. Il y a une scène très drôle entre deux curés qui est très drôle. La BD est très drôle, elle est très dynamique, je trouve. Elle est gentiment anticléricale, elle se moque gentiment des colons, etc. Notamment du personnage de Tarzan, hein. Il y a aussi cette moquerie. Mais c'est jamais méchant, hein. C'est jamais une BD qui a un ton revanchard. Et puis, bon, il y a des passages très drôles. Moi, j'aime beaucoup. C'est quand elle est en colère, en fait. Quand elle est en colère, elle a envie de faire l'amour, puis elle déchire son pagne. Voilà, ah, je suis en colère, puis elle déchire son pagne. Puis là, ça veut dire qu'elle a envie de faire l'amour, en fait. C'est comme ça qu'elle régule sa colère, et c'est comme ça qu'elle le manifeste, surtout. Bon, moi, je pense que c'est une BD qui, effectivement... c'est vrai qu'elle est érotique, mais on a vu pire, je veux dire, enfin, on a vu pire... façon de parler, hein. Je veux dire, des BD comme Druna, c'est pire que ça, quoi. En plus, cette polémique, finalement, elle a plutôt servi à la BD, parce que du coup, bah, les gens se sont précipités pour aller l'acheter quand elle est parue. Et aussi, il y a un détail. Bon, c'est dommage qu'on n'a pas eu les auteurs, parce que par rapport à cette personnification des femmes noires, c'est que l'auteur explique Christian Rossi, il explique qu'au départ, il avait mis une femme blanche. Il disait que, au contraire, mettre une femme blanche, ça faisait vachement tendancieux. C'est pour ça qu'il a fait, il a décidé de dessiner une femme noire, finalement.
Écoutez Culture Prohibée spéciale bande dessinée. Quand tu dis pire, Thomas, Drouna, c'est quand même excellent. C'est surtout quand tu dis plus, tu veux dire plus osé. Voilà, je pense que c'est ça. C'est dans ce sens-là que tu voulais le dire. Alors, je ne sais pas si c'est très osé. Enfin, c'est gonflé quand même de faire une suite au Watchmen. On va tout de suite parler de Doomsday Clock avec notre ami Damien qui est venu avec ce comics sous le bras.
Doomsday Clock de Geoff Johns, Gary Frank et Brad Anderson, sorti chez Urban Comics. Alors, on part sur quelque chose de très lourd, d'extrêmement lourd. Je préviens déjà à l'avance que je vais un peu spoiler Watchmen vu que ça repose sur sa fin, mais on va tout d'abord commencer par le résumé de l'histoire en soi. De quoi parle Doomsday Clock ? Il y a 30 ans, sur une terre où le cours de l'histoire évoluait de manière bien différente, un justicier milliardaire nommé Ozymandias a tenté de sauver l'humanité d'une guerre nucléaire imminente en concevant une machination effroyable et réussie. Mais ses plans ayant été révélés, le monde s'apprête à s'éteindre dans une pluie nucléaire. Pour restaurer l'équilibre sur sa planète, il se met en quête du Docteur Manhattan, surhomme omnipotent. Un seul problème cependant, le docteur Manhattan a quitté sa dimension pour visiter celle de la Ligue de Justice et interfère avec le cours des événements, manipulant à leur insu les héros de cet univers. Alors, avant de parler du comics en soi, il faut comprendre son origine. Et là, je ne parle pas du comics Watchmen dont je vous passe un énième résumé. Non, je parle de comprendre l'origine du projet de Doomsday Clock. Nous sommes en 2016, alors que Geoff Johns annonce en fanfare Rebirth, la nouvelle ligne éditoriale de DC. Alors que les films s'annoncent dans un univers sombre, Johns annonce des ténèbres effroyables et étouffants, ainsi que la lumière pour les comics. Et tout commence par la renaissance d'un personnage iconique, Wally West, le troisième Flash. À partir de ce moment-là, plusieurs éléments viennent troubler la Terre à travers de multiples récits sortis chez DC. Batman retrouve le badge du comédien dans sa cave. Jor-El, le père de Superman, est en vie, sauvé de Krypton par une lumière étrange bleue. Les Teen Titans affrontent un adversaire qui fut le futur avant d'être vaincu. Il prononce un mot, Manhattan. Point culminant dans les Detective Comics, Red Robin met en avant les comportements de plus en plus étranges de Batman. Il fait référence à la Ligue de Justice qu'il a créée à partir de criminels. Il met en avant le fait qu'il est en train de transformer la Bat-Family en armée. Red Robin termine l'enchaînement de ces différentes argumentations par une question. Pourquoi Batman se prépare-t-il à une guerre ? Problème, le retard sur planning de Doomsday Clock conduit finalement à Batman Metal à être l'event principal qui est écrit par Scott Snyder. Dès là, on repose sur un autre problème qui est toute la ligne de Rebirth. En effet, le comic Doomsday Clock propose une confrontation entre le nihilisme de Manhattan et l'optimisme à toute épreuve de Superman. Cette confrontation idéologique est le centre de tout et elle fonctionne extrêmement bien. Il y a un énorme frisson à voir comment les tensions politiques montent entre les nations dans les comics, à quel point il est proche des tensions politiques qui existent dans notre monde et à quel point finalement nous sommes près de cette finalement horloge nucléaire. C'est une Doomsday Clock, c'est absolument effrayant. Point intéressant dans l'histoire de l'intrigue, c'est que Dr. Manhattan, enfin toute l'intrigue se passe dans l'univers de DC, se passe en 92, c'est-à-dire l'année même de la mort de Superman. Ce qui renforce finalement toute l'ambiance inquiétante. Faisons une pause autour des dessins de Gary Frank qui maîtrise l'ouvrage d'un bout à l'autre. Il y a la réutilisation des 9 cases issues de Watchmen qui fait à la perfection, dont dessin est maîtrisé de bout en bout. Il y a 3 scènes absolument remarquables et qui sont suffisamment éparses pour ne pas vous spoiler, mais pour vous mettre l'eau à la bouche. Le véhicule du hibou surgit du bat-signal. On a un sourire du sang du Joker fait sur le masque de Rorschach. Et enfin, un personnage de Watchmen qui fait face à Captain Atom, The Question et Blue Beetle, et je n'en dis pas plus parce que je suis certain que certains d'entre vous ont déjà compris la référence. Les personnages secondaires qui sont créés spécialement pour l'occasion sont géniaux, on a juste envie de les voir beaucoup plus. Je fais un éloge, mais il n'est pas sans défaut. Il ne va pas plaire à tout le monde, car après tout, on touche à Watchmen. Certains dialogues sont lourds, toute la fin donne un effet de précipitation, et certains effets d'annonce qui y sont faits ne sont plus en fait, d'actualité, vu que Dan Didio, qui avait prévu la suite, n'est plus aux commandes. Mais malgré ça, je trouve que ce comic est une réussite, tout comme la série d'ailleurs. Pourquoi ? Car ils ont compris les mécanismes et les développent comme l'écoulement naturel d'un fleuve. Il ne faut pas les voir finalement comme un canon pour Watchmen en tout cas. Dan Didio, l'ancien chef éditorialiste de DC, l'a vendu comme la suite officielle de Watchmen. Ça va sûrement choquer DC et personne d'autre ce que je vais dire, mais Watchmen n'a pas besoin de suite. Néanmoins, John Jones a toujours défendu sa propre position et a raison. Pour lui, c'est un hommage, un apache sur l'impact que Watchmen a eu. Doomsday Clock, c'est absolument ça. Je terminerai sur une des nombreuses citations présentes. Celle-ci est de Sénèque et elle donne le ton de toute l'œuvre. Dès qu'il y a un être humain, il y a une opportunité de crise.
Après cette vibrante chronique pour ce comics qui m'a donné envie du coup de me plonger dans l'univers de Doomsday Clock, on va parler, c'est une BD française, mais on va parler d'un, là aussi, un peu d'histoire états-unienne quelque part, et je vais passer la parole à Thomas.
Toi, en tant qu'amateur de Rocky, hein, je sais que tu aimes bien la saga Rocky. Je suppose que tu connais bien Joe Frazier qui a inspiré Sylvester Stallone pour son personnage de Rocky. Car Rocky, quand il s'entraîne sur les marches du Philadelphia Museum of Art ou quand il tape sur des quartiers de viande, en fait, il s'inspire donc de la personnalité de cette personnalité qui était Joe Frazier, hein, champion poids lourd de boxe qui a été champion olympique en 64. Et donc, c'est ainsi que Joe Frazier s'entraînait, notamment sur le quartier de viande, parce qu'il était garçon boucher au départ, avant de devenir boxeur. Joe Frazier, donc, apparaît dans cette bande dessinée qui est scénarisée par Loulou Dedola et Luca Ferrara, Le Combat du Siècle. Hein, Le Combat du Siècle, non, ce n'est pas ce livre de Norman Mailer qui relate le combat de Mohamed Ali contre George Foreman en 1974 à Kinshasa. Non, c'est donc une BD qui relate la jeunesse et une partie de la carrière du boxeur Joe Frazier, jusqu'à ce fameux combat du 8 mars 71 dans lequel il sort vainqueur contre Mohamed Ali. Il est le premier boxeur à battre Mohamed Ali, dont il était le plus grand rival à l'époque. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc, Joseph William Frazier, dit Joe Frazier ou Smoking Joe, né le 12 janvier 1944 à Beaufort, en Caroline du Sud, et meurt le 7 novembre 2011 à Philadelphie, en Pennsylvanie. Donc, je le disais, il connaît son heure de gloire au cours des années 60 et 70. Hein, c'est un champion poids lourd. Il a été aussi champion du monde professionnel de WBA et WBC de 70 à 73. Il était notamment craint pour son style offensif, ses esquives plongeantes et rotatives, et surtout pour son fameux crochet du gauche. Ce fameux combat du siècle est l'un des combats majeurs de l'histoire de la boxe et le premier des super combats entre deux monstres du ring qui jalonneront les très riches années 70. C'est aussi le premier combat entre deux champions invaincus pour le titre des poids lourds dans l'histoire de la boxe, mais aussi le premier combat à être regardé en masse par des millions de spectateurs à travers le monde. Il restera comme le match le plus important de Joe Frazier, alors à l'apogée de sa carrière. Donc cette bande dessinée parle du parcours de Joe Frazier, de son enfance dans les champs de coton, où il aidait son père, hein, au lieu d'aller à l'école. Hein, son père a décidé qu'il devait arrêter l'école pour l'aider à cultiver le coton dans les champs de coton, et sa détermination plus tard à devenir champion de boxe. Luca Ferrara arrive bien à rendre l'ambiance des différentes années de l'homme. Son découpage est très cinématographique et son trait reste fidèle à une imagerie qui renvoie quand même pas mal aux années 40 puis aux années 70, les immeubles, les ruelles de Harlem, Philadelphie, etc. Donc, il rend aussi bien la violence, hein, qu'il y avait à l'époque dans les champs de coton, ce dont a été témoin Joe Frazier, ce que lui a subi également. Et l'intérêt de la bande dessinée tient aussi dans le fait qu'elle s'intéresse donc à cette autre figure de la boxe qui est restée un petit peu dans l'ombre, tout du moins pour nous les Européens, dans l'ombre de Mohamed Ali. Cette BD permet d'aborder les deux personnages, Joe Frazier et Mohamed Ali, sous un autre angle, pas toujours à l'avantage du deuxième. D'ailleurs, vers la fin, l'auteur prend un peu ouvertement parti et elle l'intrigue. Je trouve qu'elle devient un petit peu... Elle tombe un peu dans un certain manichéisme. Donc c'est, je trouve que c'est un album qui complète très bien le film Ali de Michael Mann, qui donc lui est dédié entièrement à Mohamed Ali, et qui recoupe certains points tout en en enrichissant d'autres. Notamment, la BD met en évidence les différences idéologiques des deux hommes, leur position vis-à-vis du racisme. Bon, de la part de Loulou et Dola, on sent un peu la volonté de détrôner une icône pour pouvoir en mettre une autre à la place qui est, en tout cas pour nous, Européens, moins connue.
Vous écoutez Culture Prohibée. La BD que tu viens d'aborder, Thomas, donc Le Combat du siècle, est parue chez Futuropolis, tout comme Le Choix du chômage. Le Choix du chômage, qui est une somme, une BD considérable, qui est signée Benoît Colomba au scénario et Damien Cuvillier au dessin. Le résumé est assez simple. Hein, voilà, 2016, Benoît Colomba fait le constat que l'économie a désormais le pouvoir sur la politique et il veut déchiffrer ce grand renversement. Et alors, ce qui va se passer, c'est que Benoît Colomba, pendant 4 ans, va rencontrer ceux qui ont été aux manettes du pouvoir et il va en accoucher une BD monstrueuse sur le néolibéralisme, qui décortique le néolibéralisme et qui s'appelle donc Le Choix du chômage, qui est paru chez Futuropolis. Et nous allons tout de suite retrouver Benoît Colomba et Damien Cuvillier pour aborder plus en détail cette bande dessinée donc intitulée Le Choix du chômage. Qu'est-ce qui a fait, parce que j'avais déjà beaucoup aimé la précédente BD, Cher pays de notre enfance, que vous aviez co-signé avec Étienne Davodeau. D'ailleurs, je l'avais offert à mon compère Thomas pour son anniversaire, quand elle était parue. Qu'est-ce qui vous a décidé, vous, grand reporter, à dire, tiens, je vais utiliser un média comme la BD pour raconter des choses ?
Il y a deux choses. La première, c'est que dans le cadre de mon travail à la radio, je suis amené de plus en plus à travailler, à explorer ces thématiques économiques et financières, hein, pour la simple et bonne raison que c'est là que ça se passe, c'est là que le véritable pouvoir se trouve aujourd'hui. J'ai quand même bien ça à l'esprit. Et puis deuxièmement, il y a justement la continuité d'une certaine manière du travail effectué avec Étienne Davodeau, que vous citiez dans l'album « Cher pays de notre enfance ». Il correspond à une certaine époque, ces années 60-70, où, pour résumer, le pouvoir avait encore les leviers, les manettes, du fonctionnement de l'économie, de la création monétaire, des différents circuits financiers. Et puis, dans cet album, c'était la violence politique, hein, dont il était question. Donc, on allait à la rencontre d'anciens flics, barbouzes, responsables syndicaux, etc. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'était de raconter la suite de l'histoire, en fait, de raconter ce grand basculement où c'est plus le pouvoir politique qui a vraiment les manettes du pouvoir et où, finalement, c'est une certaine violence économique qui va produire ses effets, qui va être la conséquence de choix politiques. Mais ça, il fallait le documenter de la manière la plus précise possible.
Justement, le choix de la BD comme support pour une enquête journalistique quand même très fouillée, très détaillée, est-ce que vous n'avez pas peur que le fait que ce soit un format BD ne soit pas pris au sérieux, justement? Parce que la bande dessinée commence à être un peu plus prise au sérieux qu'avant, mais c'est encore un média, un support qui n'est pas entièrement reconnu.
Non, je pense l'inverse, en fait. Bon, déjà, quand même, on a fait du chemin par rapport, et vous savez très bien vous-même, par rapport à il y a certaines années où on réduisait la bande dessinée à des petits Mickey ou à de l'heroic fantasy. On n'en est vraiment plus là. Il y a vraiment plein d'auteurs qui ont démontré qu'on pouvait faire tout à fait autre chose avec de la bande dessinée. Et donc, non, là-dessus, j'avais pas d'inquiétude. Après, sur le lien entre est-ce qu'on vraiment peut faire de l'enquête journalistique en bande dessinée, je pense que vraiment c'est une manière augmentée en fait de faire de l'investigation. C'est-à-dire que on peut, par exemple dans le cas présent là du choix du chômage, c'est très intéressant, c'est qu'on peut incarner cette histoire donc avec des visages. Donc on montre des visages. Il y en a qui sont connus, voilà, les têtes d'affiche des anciens ministres ou des présidents de la République, mais il y en a énormément qui ne sont pas du tout connus du grand public. Donc, montrer ces visages-là, et puis aller au-delà, en fait, élargir la focale, et ça, c'est très intéressant, la bande dessinée permet de le faire. Pour prendre une métaphore cinématographique, ça permet de faire un zoom avant, donc on va sur les visages et on incarne cette histoire avec des personnages, et un zoom arrière, en fait, parce que cette histoire-là, justement, elle ne se réduit pas à des individualités. Derrière, il y a des grands choix idéologiques, des grands mouvements idéologiques, notamment le néolibéralisme, on y revient longuement. Et donc ça, la bande dessinée permet de le montrer. Puis il y a la dernière chose aussi, c'est les coulisses. Voilà, vraiment les coulisses de notre travail, c'est le fil rouge de l'album. Le lecteur peut pénétrer dans les coulisses de notre travail. C'était très important avec Damien de montrer comment on travaillait et d'où on parlait.
Alors, Damien Cuvillier, d'abord, tout comme nous dans ce studio, vous êtes picard. Ça,
oui.
c'est, je le souligne, même si c'est pas si important que ça, mais bon. Mais si, ça a quand même un lien avec votre travail, parce que vous avez gagné en 2006 le prix régional de la BD au festival de BD d'Amiens. On a marché sur la bulle. Vous avez travaillé sur la Grande Guerre. C'est presque inévitable quand on est picard, hein, de la Grande Guerre. Mais vous avez aussi travaillé sur la crise. Vous avez participé à un ouvrage collectif, entre autres avec Chris, hein, qu'on aime beaucoup, oui. Qu'on avait reçu dans l'émission, qui s'appelle La Crise. Quelle crise ? Comment se fait justement votre rencontre avec Benoît Colomba ?
Eh bien, cette rencontre, elle se fait lors d'un festival, le festival de bande dessinée de Saint-Malo en 2016. Et en fait, cette rencontre, on la met en scène justement, le livre s'ouvre par cette rencontre. Comme l'expliquait Benoît, ça nous semblait normal de passer ce pacte avec le lecteur, de dire ben voilà, qui on est, d'où on parle, et comment s'est fait aussi ce cheminement. Voilà, une fois de plus, on ne part pas de nulle part. Moi, j'avais ma propre histoire et Benoît également, comme il vous l'a dit, c'est un travail sur lequel il travaille depuis déjà de nombreuses années. Et finalement, cette enquête, c'est aussi le résultat de ce travail-là. C'est-à-dire que au moment où on se rencontre avec Benoît, c'est-à-dire que ce titre, et qui est aussi une interrogation, donc le choix du chômage, est déjà présente. C'est-à-dire que, voilà, il y avait déjà ce fil-là qui voulait interroger, questionner. Et voilà, moi, j'ai eu envie de faire partie de cette aventure et de cette enquête.
Et comme je le soulignais aussi, les thématiques politiques, économiques, sociales, c'est pas quelque chose qui vous est étranger non plus dans votre travail de dessinateur.
Oui, 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 bien sûr, oui, parce que j'avais abordé un peu ça via différents récits plutôt fictionnels. J'ai également participé, travaillé pendant plusieurs années au journal Fakir, voilà. Et où là, c'était mais plus en tant qu'illustrateur pour des reportages. Donc oui, bien sûr, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément et comme chacun, je pense, j'essaie de m'intéresser au monde dans lequel j'évolue et puis voilà, évidemment que ce contexte politique, le chômage, c'est quelque chose dans lequel moi j'ai grandi, effectivement, vous l'avez précisé, j'ai vécu et grandi en Picardie, c'est une région très très précaire, oui.
Vous l'avez expliqué à l'instant, vous vous êtes rencontrés au Festival Quai des Bulles en 2016. Où effectivement, vous mettez en scène dans la BD. On vous voit au travail, en fait. Alors là, la question s'adresse un peu aux deux, à Benoît comme à Damien. Est-ce que c'est venu très vite, cette idée de se dire « on va se mettre en scène ». Après tout, c'est une des meilleures manières de raconter cette histoire.
Déjà, il y avait l'idée d'être un peu les fils rouges, dans la mesure où c'est vraiment une enquête. Donc, elle évolue au cours, justement, de recherches, des avancées, des entretiens qu'on a menés. Et puis, il y avait aussi la volonté de tenir un peu un journal de bord. C'est-à-dire que, voilà, notre rencontre, elle s'est faite en 2016. Le livre s'est achevé en 2020. Et on savait très bien, alors sans prédire qu'il y aurait cette crise du coronavirus, mais on se doutait qu'il y aurait des événements qui viendraient ponctuer certainement notre travail. Et donc on tenait à avoir en fait comment laisser le champ ouvert pour intégrer des événements actuels. Voilà, donc ce livre, il est aussi quelque part le témoin de son époque.
Oui, parce que c'est un livre que vous signez, enfin vous êtes autant dessinateur, un petit peu scénariste, vous intervenez parfois dans les questions, je pense. Il devait y avoir des échanges, voilà, on y reviendra un peu plus tard dans l'entretien, mais on le voit dans la BD. Mais par contre, moi, il y a un truc qui me surprend. Alors ça, je vais poser la question à Benoît Colomba, parce que c'est lui au départ qui a quand même l'idée de ce sujet.
Oui, c'est, oui, bien sûr.
C'est comment. Vous n'avez pas été effrayé par la somme de travail parce que c'est quand même une somme de travail phénoménale. On a l'impression que vous êtes un peu comme un documentariste qui a après des centaines d'heures à dérocher pour aboutir à quelque chose qui va faire 90 minutes. Quoi. C'est phénoménal.
Oui, non, mais je ne vais pas dire le contraire. C'est un peu la moindre des choses, le moindre des respects vis-à-vis des gens qui vont nous lire, en fait. C'est-à-dire que oui, il y a un travail colossal. De documentation, je me suis énormément plongé dans les archives, une forme de pré-enquête en fait, vraiment, mais comment dire, c'est la même méthodologie que j'utilise dans mon travail à la radio ou sous d'autres supports, c'est-à-dire que avant de partir sur un sujet, il faut d'abord se plonger dans toute la masse de documentation qui existe pour essayer d'avoir la vision la plus précise possible de ce sujet, tout en restant ouvert, bien évidemment, aux éventuelles découvertes, aux entretiens, aux rencontres qu'on va faire. Donc, il y avait tout ce grand travail préparatoire qui était indispensable pour essayer de comprendre un petit peu quel était le sujet, de cerner, d'identifier les personnes à rencontrer. Après, il y a eu évidemment toute la phase de terrain, de rencontre, avec des très longs entretiens, et ça, c'était très important. C'est des entretiens qui duraient au minimum 2 heures, parfois plus, parce que j'estime que on ne peut pas faire jaillir comme ça des petits éclats de vérité si on n'est pas sur des très longs entretiens. Et puis après, toute la phase de mise en forme et avec nos propres choix, évidemment, qu'on a effectué, mais sur une base hyper documentée.
Et ce qui était intéressant, lorsque effectivement on menait ces entretiens, voilà, comme le disait Benoît, qui l'avait vraiment préparé de manière très très scrupuleuse, c'est-à-dire qu'il pensait déjà justement, il pensait à son dessinateur et il pensait aussi à la manière dont on allait mettre finalement en scène ce récit dans le futur. C'est-à-dire que souvent, quand il posait des questions à certains intervenants sur certains moments très précis, je sais qu'il leur demander voilà, dans quel contexte ça se passait, à quoi ressemblait le bureau, à quoi ressemblait telle chose. Voilà, vu qu'une fois de plus, c'est de la bande dessinée, c'est de l'image, voilà, on essayait d'être le plus précis possible pour aussi pour l'image.
Et c'est ça, il y avait, c'était un peu une blague entre nous, mais on en parle dans le livre avec Damien, mais c'était une blague avec un fond de vérité. On comparait ça à une enquête policière. Alors attention, un journaliste, c'est pas un policier, ni un juge d'instruction, et je me prends ni pour l'un ni pour l'autre. On n'a pas les mêmes moyens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que du point de vue de la méthode, par contre, parfois, il peut y avoir des points communs. Donc, pourquoi une enquête policière ? L'idée, c'était justement de recueillir le maximum d'indices, c'est ce qu'on disait, des empreintes, et des documents, des traces qui permettent un peu de comprendre ce qui se passe. Après, ce qui est intéressant dans l'entretien, c'est-à-dire qu'il faut à la fois, comme je disais, faire jaillir la vérité de la personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de savoir ce que pense la personne qu'on a en face de nous, quelles sont ses idées, ça, on le restitue dans le livre. Mais d'un autre côté, nous, on arrive avec nos pièces à conviction aussi, Et l'intérêt, ce n'est pas non plus que la personne, c'est à la fois d'être honnête et de restituer ce qu'elle pense et ce qu'elle veut dire, mais en même temps, c'est de la confronter à nos pièces à conviction. Et c'est là où ça commence à devenir intéressant, en disant, mais attendez, vous avez fait ça, comment vous expliquez que, pourquoi vous avez signé cette note, et à ce moment-là, il peut y avoir des choses intéressantes qui jaillissent, et Damien peut le restituer par le dessin.
et puis par le dessin et par la mise en scène, parce qu'on joue aussi justement sur ces moments de blanc qu'il peut y avoir, les hésitations même dans le langage de nos intervenants. Voilà, on essaie d'être le plus proche possible de restituer vraiment ces instants de rencontre, d'où le fait vraiment d'avoir là aussi de se mettre en scène quelque part.
Ce que je voudrais savoir, Damien, c'est en tant que dessinateur, au moment de la mise en scène, de la mise en image de cette enquête, est-ce que vous avez eu aussi votre mot à dire? Est-ce que vous êtes intervenu sur le scénario, dans l'agencement des séquences, si vous avez voulu couper des choses ou voilà, les agencer autrement?
Ah, c'est vraiment un travail à deux. Alors, effectivement, ça serait un contresens de parler de scénario dans la mesure où c'est vraiment une enquête journalistique. Donc, elle ne se construit pas de la même manière qu'un scénario de fiction tel que j'ai pu le faire pour des précédents albums. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une matière journalistique qui était déjà là. C'est-à-dire que quand on se rencontre avec Benoît et qu'on décide de partir là-dessus, de son côté, il commence à accumuler la matière qu'il avait. Il avait en tête les différents intervenants qu'il voulait rencontrer. Et à partir de là, au fur et à mesure, se construit. Mais c'est vraiment un travail qu'on a fait à deux. C'est-à-dire que dans les deux cas, dans la construction de la mise en scène, c'est pas Benoît qui écrit de son côté et moi qui dessine de l'autre. On a vraiment fait ça à deux. On a même passé des journées entières, l'un à côté de l'autre, à vraiment construire les pages. Et ça me semblait essentiel. Et puis c'est quelqu'un qui, Benoît le dira, mais qui est aussi lecteur de bande dessinée. Donc il a aussi un œil sur la mise en scène. Et il voit aussi comment on peut faire naviguer l'œil du lecteur d'une case à une autre. Et il avait souvent des idées qui étaient vraiment très 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 pertinentes. En plus, et ce qui ne cache rien, c'est qu'on avait aussi des références communes. Je pense notamment à Will Eisner. Donc ça, c'était assez chouette de pouvoir faire ce genre de clin d'œil. Donc voilà, c'est vraiment un travail qui se fait à deux et qui aurait été compliqué, à mon avis, autrement.
Non, c'est ça, il y a vraiment, c'est vrai ce que dit Damien, je rajoute une phrase, mais un double regard, c'est ça qui est intéressant aussi. Parce qu'on a des références communes, en même temps, on n'est pas de la même génération, pas forcément, on n'a pas la même histoire, mais ça c'est intéressant justement, parce que du coup, on est assez, assez complémentaires, je pense, avec Damien, et ça marchait dans les deux sens. C'est-à-dire que quand Damien me disait, mais attends, là je trouve que c'est pas clair, il y a un moment, je faisais la synthèse d'un texte et qu'il trouvait que c'était pas clair, il me le disait. De la même manière, après, Damien, dans cette affaire, c'était un peu un alchimiste, hein, il transformait en images des mots, des rencontres. Après, si éventuellement un dessin, je trouvais moi de mon côté également pas assez clair ou un peu à côté de la plaque, je lui disais. Et donc, ça fonctionnait vraiment comme ça.
Si vous voulez, d'un point de vue méthodologique, il y a eu plusieurs étapes dans la réalisation de ce livre, c'est-à-dire que déjà il y a tous les entretiens, et au fur et à mesure des entretiens, il y a la réalisation sous forme de d'ébauche, ce qu'on appelle un storyboard de l'album, c'est-à-dire que l'album il a été déjà conçu sous une forme dans son entièreté, sous une forme de maquette de storyboard, et ça nous semblait aussi, avant même d'attaquer les pages définitives, et ça nous semblait important de procéder de la sorte afin d'avoir l'album entier. Parce que, encore une fois, c'est une matière qui est très... une matière et un récit très dense, voilà, qui est à la fois économique, politique, historique. Voilà. Donc il fallait qu'on puisse avoir l'album sous les yeux, qu'on puisse le lire, que là aussi on revienne en arrière, on dise bah voilà, telle séquence on l'enlève ou telle séquence on la déplace. Donc voilà, c'est aussi pour ça que c'est un travail qui a pris plusieurs années.
Je rappelle à nos auditeurs que Will Eisner est un véritable génie de la BD. Hein, son travail sur New York, le créateur du Spirit. D'ailleurs, il y a un prix qui s'appelle le Eisner Award. Voilà, entre autres, parce que bon, voilà, on en a déjà parlé dans l'émission. Hein, c'est un dessinateur que moi j'aime beaucoup, enfin plus qu'un dessinateur d'ailleurs. Et effectivement, on ressent bien l'influence, parce que ce qu'il faut expliquer aux auditeurs qui n'auraient pas encore lu la BD, c'est que vous variez les styles dedans, Damien Cuvier, vous variez les cadres, la colorisation, même si on reste toujours en noir et blanc, est parfois différente. C'est très dynamique, en fait. Il y a des moments où on a des petits bonhommes, presque, on est presque dans la caricature, d'autres moments où on va être dans un trait beaucoup plus réaliste. Il y a vraiment un vrai souci de faire adhérer le lecteur au récit pour qu'il puisse, parce que c'est un récit quand même, c'est assez costaud, hein, ce qu'il faut ingurgiter. Si vous ne maîtrisez pas du tout... si avant de lire ce livre, vous ne savez pas ce qu'est l'ordolibéralisme, ben vous le saurez à la fin. Mais ce n'est pas évident, je veux dire. Et il y a un vrai travail là-dessus que je trouve, moi, assez exceptionnel. Hein, voilà.
Ben, merci. Mais là, pour rebondir à la question de tout à l'heure, c'est là où, pour moi, le dessin trouve toute sa place. C'est-à-dire que j'ai essayé de convoquer tout ce que je pouvais avoir dans ma petite boîte à outils de dessinateur pour effectivement utiliser le médium dont la palette la plus large possible. Donc, effectivement, il y a différents niveaux de lecture aussi. C'est-à-dire que le traitement de dessin n'est pas le même quand on se met en scène avec Benoît et que l'on rencontre nos intervenants. C'est un style particulier. Et puis, à nouveau, quand nos intervenants nous racontent un événement passé, c'est encore un autre style de dessin. Et puis, quand on repart sur des séquences qui sont des séquences de recréation de moments passés, là aussi, c'est encore un autre dessin. Et je convoque pas forcément ces différents graphismes de manière artificielle. C'est vraiment là aussi pour essayer d'être le plus clair et le plus simple possible dans la lecture, de manière à vraiment embarquer le lecteur.
Il y avait aussi une question que je me posais, parce qu'on ne l'a pas dit depuis tout à l'heure, la préface de l'ouvrage est signée Ken Loach. Comment vous êtes rentré en contact avec Ken Loach? Comment est-ce que vous avez pu le rencontrer déjà? Parce que ce n'est pas forcément évident, aujourd'hui on fait un peu tout à distance dans le monde actuel. Comment ça s'est passé le travail avec le réalisateur britannique?
Comment ça s'est passé? En fait, c'était une idée un peu folle au départ. Enfin, c'est-à-dire que simplement en discutant entre nous, on s'est dit qui pourrait faire une préface à ce livre. Et voilà, l'idée de Ken Loach s'est imposée assez vite, mais comme ça, parce que ça semblait assez évident. Enfin, en tout cas, à titre personnel, je sais que c'est le cas pour Damien, c'est quelqu'un que je respecte infiniment, dont je respecte infiniment le travail comme réalisateur depuis des années. Il y avait à la fois le fait que dans ces films, et pas seulement dans My Name is Joe, hein, parce que là c'est vraiment l'histoire d'un chômeur et voilà, dont on voit l'existence aujourd'hui, mais à travers tous ces films, il montre vraiment, tout en étant réalisateur et en faisant œuvre d'artiste, les dégâts de ce néolibéralisme, hein, dont il est question beaucoup dans le livre. Donc voilà, et puis il y avait aussi l'idée cette bataille du récit. Hein, c'était quelque chose que moi j'avais lu sous la plume de Ken Loach. Alors lui il est réalisateur, Damien est dessinateur, moi je suis journaliste, mais simplement voilà, c'est vrai qu'il y a une bataille du récit en fait, hein, mais autour de ces questions-là. Et voilà, donc du coup on a réussi, alors on ne l'a pas rencontré, hein, mais on lui a envoyé un mail, voilà, en passant par une personne qui le connaissait par sa société de production. Et voilà, et à notre grande surprise, à notre grand étonnement, il a répondu favorablement et il a donc signé ce texte assez percutant.
Ah oui, c'est un texte qui est fort, c'est peu de le dire, oui, voilà, qui va un peu à contre-courant de ce qu'on peut souvent lire, ce qui est très intéressant, évidemment. D'ailleurs, le livre, c'est plus qu'un livre à thèse, c'est un livre en fait qui développe un point de vue à partir d'une grande base de données, hein, on l'a dit. Et surtout, j'espère ne pas me tromper, mais j'ai l'impression que pour vous, c'était très important malgré tout de laisser le lecteur se faire son opinion.
Ah oui, oui, tout à fait, très 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 important. Vous avez parfaitement résumé les choses, c'est-à-dire que j'y reviens pas, j'ai déjà dit, mais voilà, c'est un travail qui est hyper documenté. Mais d'un autre côté, effectivement, il y a un point de vue. C'est-à-dire que, il y a toujours ce débat sur l'objectivité. L'objectivité, ça n'existe pas. Je veux dire, même pour un journaliste, le simple fait de s'intéresser à un sujet, vous faites des choix, vous faites tout le temps des choix. Par contre, effectivement, il faut qu'il y ait une rigueur, une honnêteté intellectuelle, vraiment qui soit absolument inaltérable, quoi. Donc ça, c'est vraiment le contrat de confiance, pour reprendre l'expression de Damien tout à l'heure, le contrat avec le lecteur. Donc l'honnêteté, ça veut dire que tout doit être vrai, recoupé, avoir évidemment un contradictoire. Et puis surtout, c'est très important, laisser la place pour le lecteur. Les gens sont assez grands pour se faire une idée. Je veux dire, nous, on fait un livre de presque 300 pages pour justement critiquer le fait qu'on impose une idéologie et qu'on impose des choses aux gens sans qu'ils aient voix au chapitre. C'est pas pour nous-mêmes faire la leçon. Mais par contre, effectivement, il y a un point de vue qu'on assume dans le livre. Mais il faut qu'il y ait la distance pour que les lecteurs se fassent leur opinion eux-mêmes. Ils ont tous les éléments sont sur la table. Et c'est pour ça que cette idée, l'idée aussi, c'est que cette bande dessinée soit un objet de débat, en fait.
Benoît disait aussi que c'est un objet de compréhension massive, et c'est vrai, c'est la volonté qu'on a avec ce livre, une fois encore, c'est de reposer voilà, toutes les tenants et les aboutissants de ces grands choix économiques et idéologiques. Voilà, après, à chacun de s'en emparer et puis de se faire sa propre opinion à la fin de la lecture de ce livre.
Et puis il y a des révélations dans ce livre. Alors je ne sais pas après comment vous avez choisi les interlocuteurs. Je ne sais pas si certains ont refusé. Je ne sais pas si certains vous ont surpris ou voilà. Mais il y a quand même des choses. On apprend des choses de la bouche de certains interlocuteurs qui sont absolument incroyables. La règle des 3%, la révélation qui est faite par Guy Abeille, parce que pour moi c'est une révélation. Enfin c'est juste énorme quoi. Enfin en gros ça sort du chapeau quoi. Ça n'a aucune justification en vérité. C'est assez extraordinaire.
Oui, c'est ça. La règle du 3% par rapport au PIB pour justement qui a été mise en place au début des années 80 au moment où il fallait mettre en scène finalement une politique de rigueur budgétaire, limiter les déficits. Oui, alors c'est une révélation, je pense, pour beaucoup de monde. C'est quelque chose, cette information, elle était déjà sortie, en fait. Elle existait comme beaucoup de choses. Tu l'as dit, il y a de vraies révélations avec des choses complètement inédites. Mais vous voyez, en fait, le simple fait de mettre en lumière ce type d'éléments constitue de fait une révélation, parce qu'il y a ce que j'appelle un effet puzzle, quoi. Quand vous rassemblez plein d'informations comme ça, tout d'un coup, on a une image globale, un tableau d'ensemble, du coup, ça devient une vraie révélation, au sens comme un photographe, en fait, hein, avec une photo, vous passez au révélateur, et il y a l'image qui apparaît. Donc, encore une fois, cette histoire de Guy Abeille, du 3%, bah, c'est connu déjà, peut-être d'un cercle d'initiés. Il y avait un article dans Les Échos il y a quelques années, mais enfin, bon, tout le monde ne lit pas Les Échos. Voilà, donc. C'était, comme le dit à un moment un de nos interlocuteurs, la plupart de cette histoire, alors là, il parle de la construction européenne, mais rien n'est caché ou quasi rien n'est caché, mais par contre, c'est pas forcément exposé au grand jour.
C'est vrai que les interlocuteurs ne cachent rien. Enfin, ils vont au bout. Enfin, en tout cas, ceux qui sont dans le livre, bon, ils disent ce qu'ils doivent dire et ils s'assument. Certains, les ultralibéraux, s'assument. Voilà. On découvre par contre des personnages. Enfin, moi personnellement, j'ai découvert quelqu'un comme Tommaso Padoa Schioppa, qui est un économiste italien assez méconnu, mais qui a un rôle majeur. On découvre aussi des choses assez rigolotes, les relations entre Jean Monnet et De Gaulle, par exemple. Et puis on découvre aussi que Bérégovoy, par exemple, il était plus soucieux du prolétariat que ne peut le laisser penser. Bon, parce que moi, je suis fils de militant syndical, et Bérégovoy était vu quand même comme un traître au bout d'un moment par les militants syndicaux. Et là, on découvre dans le livre que c'est beaucoup plus complexe que ça. On découvre aussi que Mitterrand était un peu une bille en économie, quoi. Enfin, il y a quand même des choses assez surprenantes dans cet ouvrage.
Oui, bah c'est le but. Hein. Vous parlez de Bérégovoy. On essaye effectivement de lui restituer peut-être une certaine complexité. Alors, en même temps, on n'en fait pas, comment dirais-je, on le repeint pas en rose non plus. Hein. Simplement, c'est un des acteurs. Voilà, il a joué un rôle central dans cette histoire. Il a absolument avalisé tous ses grands choix économiques et financiers. Mais d'un autre côté, voilà, il était traversé par le doute. À plusieurs moments, il s'est posé des questions, il s'est opposé, en tout cas en interne, hein, à certaines options qui étaient prises, à des moments clés. Il était partisan de sortir du système monétaire européen dans les années 82-83. Il était contre le rapport Delors qui préconisait une certaine construction européenne. Il était contre l'indépendance des banques centrales. Il voulait que l'État continue de piloter une partie de l'économie, les taux d'intérêt, etc. Enfin bon, mais d'un autre côté, il a participé et accompagné et promu la libéralisation des marchés financiers. Sous l'impulsion d'un certain nombre de conseillers. Donc voilà, il a joué un rôle absolument central dans cette histoire. Mais Voilà, et puis ils voyaient bien en même temps, et c'est documenté par des notes ou par des témoignages de conseillers, que cette politique ne marchait pas, que le chômage continue d'augmenter. Toutes ces réformes, entre guillemets, soi-disant modernes, ils les faisaient au nom des classes moyennes ou des classes populaires, mais d'un autre côté, ou la lutte contre l'inflation, etc. Mais en même temps, voilà, comme je dis, ils voyaient bien que tout ça ne menait à rien. Donc voilà, il devait quand même sans doute y avoir une tempête sous un crâne. On essaye aussi de montrer ça.
Je pense qu'il y a, c'est un personnage qui est à l'image de cette histoire. Il est assez schizophrénique finalement, parce qu'effectivement, il y a des tiraillements. En tout cas, chez un personnage comme Bérégovoy, on est énorme, comme le disait Benoît, effectivement. C'est-à-dire que d'un seul coup, d'un côté, d'être soucieux effectivement des classes les plus précaires, et d'un autre côté, acter des choix économiques qui auront des conséquences sur ces populations précaires.
Ouais, c'est tout le paradoxe, et c'est ce qui explique au fait, ça n'engage que moi, mais en grande partie l'écroulement du Parti socialiste en France et de son influence aujourd'hui. Mais bon, mais en politique, on n'est jamais mort. Voilà. L'ouvrage est divisé. Enfin, pour moi, il y a vraiment vous attaquez vous développez votre point de vue à partir vraiment, pour moi, de trois axes différents. L'axe français, l'axe européen, et puis une grande partie sur la finance. Alors ça, c'est un choix c'est un choix de structuration qui est apparu très tôt pour vous.
Bah oui, parce que tout ça s'emboîte. Hein. Tout à l'heure, je parlais de zoom avant et de zoom arrière. C'est une histoire française qu'on raconte, mais ça n'aurait eu aucun sens que cette histoire-là, on ne l'emboîte pas dans une histoire européenne. Hein, puisque je disais tout à l'heure, un certain nombre de grands choix d'orthodoxie monétaire et financière ont été pris au nom de la construction européenne, on y revient en détail, et puis tout ça évidemment se télescope avec une histoire plus mondiale, le rôle des Américains, de la mondialisation financière. Mais ce qu'on montre bien dans le livre, je pense, c'est que les Français n'ont pas subi cette histoire, en fait ils l'ont accompagnée, ils ont été un élément d'impulsion de ces grands choix, voilà, quoi qu'en disent certains, et c'est ça qui est intéressant.
Oui, ce que vous montrez bien dans l'ouvrage, d'ailleurs on voit très peu Thatcher, on doit la voir qu'au détour d'une case, je crois, je ne sais même pas si on voit Reagan, c'est que la France, en fait, bon, il y a d'autres philosophes, économistes, essayistes qui défendent cette position, mais qui est assez peu entendue généralement, mais que la rigueur, elle arrive très tôt, et que le tournant libéral, il est pris très tôt, en fait, en France, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire.
C'est ça, ce tournant, il est pris très tôt, quasiment tout de suite, hein, comme le dit un des conseillers de Pierre Mauroy, le Premier ministre Jean-Pierre Levade, il dit le tournant de la rigueur, on l'a pris tout de suite. Alors pas tout de suite exactement, parce qu'il y a eu quelques mois un peu de ce qu'on appelle de relance keynésienne de l'économie. Voilà, il y a un contexte politique, il faut donner des gages évidemment à l'électorat, il y a eu le programme commun entre les socialistes et les communistes pour que Mitterrand arrive au pouvoir. Mais en fait, on est dans le droit fil, tout ça relayé par des gens comme Jacques Delors, Jacques Attali ou d'autres, dans le droit fil, finalement, de la politique de Raymond Barre, le Premier ministre de Valéry Giscard d'Estaing, à la fin des années 70. Hein, on est dans ce couloir, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est une expression qui est utilisée par un ancien conseiller de Raymond Barre, à un moment, qui fait une note en 79 en disant « Pour rester dans le couloir de ces options économiques, il ne faut surtout pas essayer de lutter contre le chômage à court terme », écrit-il noir sur blanc. Donc on reste effectivement là-dedans avec un grand récit qu'on essaye un peu de démythifier, parce que tout ça, encore une fois, est fait au long de la construction européenne, mais en fait, avec des choix de stabilité monétaire, de rester, il faut rester, le modèle c'est le mark allemand, hein, cette monnaie, voilà, et la construction, l'euro va être aussi calquée sur l'ordolibéralisme, c'est-à-dire une variante du néolibéralisme, le néolibéralisme étant cette idée que l'État n'est là que pour servir le marché, c'est le droit privé qui doit prévaloir.
Et là aussi, c'est pour ça que le sous-titre du livre, donc, qui est « De Pompidou à Macron », a son importance, c'est-à-dire que c'est vraiment, comme le disait Benoît, c'est un continuum, c'est-à-dire que quand on lit, on reprend les discours d'un Raymond Barre ou d'un Georges Pompidou, c'est exactement le même discours qui est tenu aujourd'hui par un Emmanuel Macron.
Et c'est là où tout se rejoint, d'aller dans le détail de la biographie des personnages. Bon, Raymond Barre, c'est pas que ce personnage un peu rondouillard que les plus âgés d'entre nous ont vu dans le bébé de chaud dans les années 80. C'est quelqu'un qui a joué un rôle éminent au sein de la Commission européenne, qui a été le traducteur de Friedrich Hayek, qui est un des penseurs justement du néolibéralisme, et qui donc joue ce rôle important à la fin des années 70. Donc c'est là où on voit bien que c'est pas juste une histoire française.
Vous qui décortiquez dans ce livre donc le néolibéralisme et son récit, j'ai envie de dire d'ailleurs, hein, parce que vous avez rappelé, c'est le néolibéralisme, c'est l'État qui doit servir le marché, et vous décortiquez le récit du néolibéralisme. Quel enseignement tirez-vous de la crise actuelle? Parce que si on est un homme de bon sens, ou une femme de bon sens, pardon, on se dit le monde d'après ne doit absolument pas ressembler au monde d'avant, ni même de maintenant. Mais bon, on ne peut pas s'empêcher de se dire que le monde d'après, il va être le même empire, quoi. Voilà.
Je dirais, alors là c'est un commentaire parce que c'est ce que vous me demandez, je dirais deux enseignements. Le premier, c'est que on arrive clairement à la fin d'un cycle historique. Cette pensée néolibérale, on voit bien qu'elle est en fin de parcours, mais d'un autre côté, c'est une fin qui peut durer longtemps, hein, comme le dit à un moment la philosophe Barbara Stiegler, c'est une fin qui peut durer très longtemps. Mais enfin, on voit bien quand même qu'on arrive au bout de quelque chose, et on voit d'ailleurs ressortir du chapeau un certain nombre d'idées ou de préconisations qui étaient tout à fait considérées comme hérétiques il y a encore quelques semaines, hein, concernant le fonctionnement de l'économie. Mais enfin, on voit là aussi qu'il y a un aspect tactique quand même, qui est très important, et on voit revenir, en tout cas dans le débat français, une certaine, des idées sur la dette, etc. Et donc on voit bien aussi revenir très rapidement par la fenêtre, cette idéologie néolibérale. Mais enfin, on voit bien quand même qu'on est dans un moment particulier. Et puis la deuxième chose, c'est que l'histoire n'est jamais écrite, en fait. C'est ça qu'on veut dire aussi un peu dans le livre. Mais qu'en fait, le Nouveau Monde, effectivement, ressemble beaucoup au monde d'avant. C'est-à-dire que rien ne pourra éventuellement changer sans rapport de force sociale et politique, en fait. Tout passe par là. C'est-à-dire que les choses ne vont pas changer comme ça par elles-mêmes. Et ce qu'on veut, l'idée, c'est pour ça que je parlais de débat, ce livre est aussi un objet de débat, c'est que des choix qui ont été effectués, ils peuvent par définition être défaits. Donc déjà, c'est la première chose. Mais en même temps, les choses ne vont pas se faire d'elles-mêmes. Et donc, sans changement dans le rapport de force, comme je le disais, social et politique, rien ne pourra changer, finalement. Mais donc, c'est les deux choses principales que je vois.
Et à titre personnel aussi, l'enseignement que je tire de ce travail, de cette enquête, c'est que l'économie, justement, n'est pas une science. Et qu'on en fait ce qu'on veut, on peut en faire ce que l'on veut, pour peu que, en tout cas, on en débatte de manière démocratique, en tout cas. Et je pense qu'il y a comme le disait Benoît, et on arrive certainement à la fin d'un cycle aussi où je pense qu'il y a de plus en plus une vraie volonté, un appétit des citoyens pour la politique et vraiment de s'impliquer dans la vie la vie commune.
On voit bien que derrière ça, je crois que c'est Barbara Stiegler, encore une fois, qui, à la fin du livre, dit, en commentant la déclaration d'Emmanuel Macron sur la guerre, que la métaphore guerrière n'est pas forcément la bonne. Mais par contre, il y a vraiment, ce qu'on montre dans le livre, c'est que ces grands choix, ils sont faits par rapport à certains intérêts économiques, par rapport à certaines classes sociales aussi. C'est-à-dire que, clairement, à un moment, il y a le choix qui est fait de défendre plutôt les épargnants, c'est-à-dire ceux qui ont déjà de l'argent, au détriment d'autres. Donc je pense que c'est aussi ces arbitrages-là qui, à un moment, doivent être revenir dans le débat public, derrière des grands choix économiques qui sont présentés comme intangibles.
Voyez-vous, je ne sais si nous vous avons convaincu, mais moi je retire une idée de tout ça. C'est que finalement, tout ce qu'on peut dire ou tout ce qu'on peut faire, en définitive, c'est vous. Et vous seul qui trouverez la solution. Il n'y a pas de sauveur suprême, il n'y a pas de super caïd, il n'y a pas de superman. C'est vous, prenez-vous par la main, sachez ce que vous voulez, demandez-le, voyons ce qu'on peut faire et avancez. Alors, ou on aura la crise, ou on sortira de la crise, et dans les deux cas, on aura ce qu'on mérite. Voilà, excusez-moi d'être un peu comme ça, mais on arrive à la fin. Bonsoir et à bientôt.
Si C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée est disponible en balado diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit la Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.